Déjà, effectivement, on tient à souligner le respect de votre engagement, de l'organisation de cet échange, qui pour nous était fondamental pour que les agents, en particulier, ne découvrent pas au JO entre Noël et le jour de l'an, en fait, le sort qui leur était réservé. Malheureusement, effectivement, au travers des annonces que vous nous faites ce matin, tout n'est pas encore stabilisé. Donc, une partie des agents risque de découvrir donc des arbitrages qui aujourd'hui ne sont pas publics. Et pour nous, c'est fondamental quand on parle, y compris dans toutes les instances ministérielles, de prévention des risques psychosociaux. Le pire, c'est de trouver des informations seules, sans capacité à pouvoir le partager avec des collègues et avec les représentants du personnel. On se rappellera que le 24 décembre dernier, les agents de l'ENTE avaient appris par leur précédente ministre la fermeture de leur école. Pour revenir au sujet du jour, cinq points essentiels qu'on tient à souligner auprès de vous sur les arbitrages face aux demandes des collectivités. La question, effectivement, c'est de pouvoir mesurer dans les derniers arbitrages qui se rendent quel est le respect des engagements que vous avez pu prendre, notamment sur l'intégration des arbitrages côté État, sur la question de continuité des réseaux et de cohérence des services. Ce qu'on peut constater au travers des éléments de cartographie que vos services nous ont présentés lundi, nonobstant ce que les derniers arbitrages de cette semaine et ceux qui interviendront dans les prochains jours, c'est que tout cela va quand même accoucher, a priori, d'un réseau morcelé, qui ne répondra d'ailleurs plus à sa propre définition. Le réseau routier national, vous pouvez aller voir sur le site du ministère, il a une définition. Avec ce qui se préfigure en termes de transfert en particulier, ce réseau routier, en termes de cohérence, va perdre sa propre définition. Ce qui, pour nous, est inquiétant, au-delà des effets de cette loi 3DS que, vous l'aurez compris, nous contestons depuis l'origine, tout cela ne pourrait que motiver qu'il y ait un coup d'après sur le réseau routier national, sur ce qu'il en reste en tout cas, qui d'ailleurs ne serait pas très incompatible avec certains discours présidentiels sur la relance de certains chantiers de décentralisation. Donc là-dessus, bien sûr, nous serons très très vigilants sur la suite de tout cela. On s'interroge sur la prise en compte de délibérations postérieures au 30 septembre. Vous avez cité effectivement deux cas de figure qui nous fait poser la question, mais à la limite, une collectivité qui vous écrit finalement au 3 janvier, c'est est-ce que finalement ça ne sera pas quelque chose de recevable? Pour nous, en tout cas, notre interprétation est bien entendu que non. Ainsi que des délibérations qui renvoient à des conditions qui ne serait pas en fait levable d'ici la fin de l'année. Pour la région Grand Est en particulier, quelle est votre vision de comment prendre des textes réglementaires d'ici la fin de l'année pour acter une mise à disposition, alors même que les conditions demandées par la collectivité n'auront pas de réponse en fait d'ici la fin de l'année. Et pour nous, c'est un point emblématique, et vous comprenez d'ailleurs sur la région Grand Est, si on revient sur le rétexte sur le transfert alsacien, le sujet est très très sensible pour les agents de la Direst. Sur le deuxième axe, c'est l'impact par DIR et par DREAL. Enfin, n'oublions pas, on a les DIR, on est très attachés. D'ailleurs, on enregistre dans votre introduction le fait que vous engagez sur le maintien structurel de l'outil DIR. C'est comme ça qu'on interprète vos propos. N'oublions pas non plus les DREAL qui vont être impactés aussi. On pense aussi aux agents. Donc l'attente maintenant, c'est aussi au travers des décisions de fin d'année, c'est quels sont les effets pour chaque DIR et chaque DREAL en termes d'effectifs et de structuration, bien entendu. Et puis, quel pilotage de la phase transitoire? À ce sujet, on exige vraiment que l'établissement de la structuration qui ressortira des services de l'État soit bien en avance de phase par rapport aux travaux des collectivités. L'objectif pour nous est bien qu'un maximum d'agents aient le choix entre le service de l'État qui va continuer à intervenir sur le volet routier et ce que les collectivités pourront mettre en place, en particulier dans le cadre de transferts vis-à-vis soit des agglos, soit des départements. D'autre part, il faut se vigilante à ce que les portes en mutation ne se ferment pas durant cette phase transitoire. Les services, à la fois les DIR et les DREAL, vont continuer à avoir besoin de fonctionner et les agents ne peuvent pas être les otages de la réflexion ou de la réforme qui est en cours. Et sachant, on va pas refaire la réunion de lundi, mais on a déjà eu quelques cas de figure où, de façon tout à fait inexpliquée, certains responsables de zones de gouvernance en fait interdisaient à certaines DIR de publier des postes, ce qui est quand même très inquiétant si c'est une consigne qui vient soit de Paris ou des consignes qui sont auto-appliquées au niveau local des zones de gouvernance des effectifs. Si on en arrive maintenant à l'échelle des personnels concernés, bien entendu, on attend un cadrage national qui engage l'État, mais aussi les collectivités sur des engagements donc dans la durée. Et puis quelque chose aussi qui est fondamental pour nous, là, de les différentes catégories d'agents que vous avez listées, plutôt vous sous l'angle de la mission est-elle partiellement ou totalement transférée, on voit nous un autre critère qui doit rentrer en ligne de compte en la matière, c'est en particulier la notion de poste reconfiguré ou déplacé. Pour nous, il faut vraiment que dans les engagements RH du ministère, les collègues qui vont avoir leur mission transférée de manière géographique, par exemple en cas de transfert à un département, une mission d'ingénierie ou une mission plutôt exercée en Dréal sur la maîtrise d'ouvrage, elle peut être transférée à 100 km ou à 300 km. L'idée dans ce cadre-là, c'est bien que ces agents-là aient bien le choix aussi de pouvoir dire non, ça nous semble fondamental, y compris dans le cadre sous la dimension de reconfiguration de poste. Quelqu'un qui est en position aujourd'hui d'encadrement, en position hiérarchique, on va dire, reconnue dans le cadre de différentes structures, on sait d'expérience que dans la collectivité qui reprend les missions, le positionnement, il n'est pas forcément aussi intéressant. Et on demande que dans ce cadre-là, si la reconfiguration, en particulier du positionnement des agents dans l'offre des collectivités, là aussi, ces agents doivent aussi avoir le droit de dire non. Et là, enfin, c'est clairement pour revenir aussi aux engagements du ministre Béchu en CTM budgétaire, c'est-à-dire que le maintien d'un plafond d'emploi du ministère dont on ne se satisfait pas dans la mesure où ce n'est pas encore le rebond que l'on attendait, c'est que ça peut vouloir dire que le ministère, notamment dans les 2 ans qui viennent, aura peut-être du mal à atteindre son plafond d'emploi. Il serait inacceptable que le ministère, dans ce cadre-là, court le risque de ne pas, entre guillemets, atteindre son plafond d'emploi, tout en obligeant des agents à rejoindre des missions de collectivité dans des conditions qui seraient dégradées. Donc pour nous, c'est vraiment un point fondamental à la fois pour les agents des DIR et des DREAL pour pouvoir mettre des gouttes d'huile dans le dispositif. Et enfin, la situation des OPA mérite d'être clarifiée. On l'a évoqué aussi, je pense, dans le cadre de la réunion de lundi. Quatrième axe, quelle gouvernance et quelle mise en place et quelle place plutôt des instances représentatives. D'une part, par rapport à certains autres chantiers de décentralisation, y compris récents sur le FADER, etc., l'idée c'est vraiment de ne pas reproduire la négociation de gré à gré, complètement avec la main au niveau local, on a vu ce que ça avait donné, et donc de ce point de vue là c'est aussi quelque chose qui nous semble très important. Et puis pour revenir à la question des instances, il ne faudrait pas que le gouvernement qui a claironné pendant des semaines toute l'importance des élections professionnelles fasse le constat ou nous amène à faire le constat que les instances, y compris des services qui vont être impactés par les effets de la loi 3DS, soient uniquement sur un strapontin sur la consultation. Et on demande dans ce cadre-là que, notamment au-delà des instances nationales, les instances des différents services impactés puissent être consultées, et pas simplement informées des effets sur, bien entendu, le côté État, bien entendu, de la chose, mais aussi sur les organigrammes qui vont être proposés par les collectivités, ainsi qu'une clarté dans ces instances locales sur l'affectation des agents au travers de leur répartition d'activités. C'est quel agent est vraiment identifié comme étant concerné par une mission à temps partiel ou à temps complet, et puis la dimension qu'on vous soulignait sur les postes reconfigurés ou déplacés. Et puis, dernier axe de notre intervention liminaire, et là, c'est plutôt sur l'avenir, c'est quel pilotage de la politique routière post-3DS. C'est-à-dire, alors même qu'aucun bilan n'a été tiré, en fait, de l'exercice de transfert post-2007, alors même qu'on a cru voir même que la Cour des comptes était elle-même plutôt réservée sur l'effet positif que ça avait pu emporter, aujourd'hui, le constat, c'est que depuis 2007, on a perdu 18 places au rang mondial du classement des infrastructures routières pour leur qualité. Alors, est-ce que c'est destination tiers mondialisation, puisque c'est la mode, en tout cas, émietter, encore une fois, cette compétence qui nous semble sensible sur les infrastructures routières de la nation entre encore plus d'acteurs, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Et vraiment, la question et la réflexion qui est à ouvrir au niveau du ministère, c'est quel impact, en particulier, sur la gestion globale des compétences de la nation en matière d'infrastructures routières, alors même, que je disais tout à l'heure, notre ministère décide de fermer de ses écoles, qui auraient très bien pu répondre aussi à un besoin partagé de la nation sur ses compétences. Et avec une autre question, bien entendu, qui est l'impact pour le CEREMA, qui, bien entendu, est un acteur important, à la fois pour l'État sur ses infrastructures et pour les collectivités dans ces domaines. Voilà un petit peu sur les 5 axes vraiment de préoccupation fondamentaux que l'on aura durant l'ensemble de ce processus. Et puis, mes camarades, dans le cadre des réponses que vous pouvez apporter, auront certainement des points supplémentaires à apporter.